France Culture, il est midi et demi. L'heure des informations avec vous, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. On savait que le géant bancaire HSBC, qui sait depuis quelque temps déjà les contours d'une réorganisation de vaste ampleur, et bien c'est chose faite. Le groupe basé à Londres a annoncé ce matin qu'il envisageait de supprimer pas moins de 35 000 emplois d'ici 3 ans.
La guerre du gouvernement chinois contre le coronavirus ne l'a en aucun cas détourné de son offensive généralisée contre les voix dissidentes.
Oui, ce matin, Pékin a arrêté un militant anticorruption qui avait osé critiquer la gestion de l'épidémie par le président Xi Jinping.
En France, le rapport proposant de remplacer l'ENA par une École d'administration publique a été remis officiellement ce matin.
Et pas de Big Bang en perspective, puisque si l'ENA en tant que telle doit bien disparaître, le principe d'une formation spécifique pour la haute fonction publique est lui maintenu. Emmanuel Macron est en visite à Mulhouse aujourd'hui pour des annonces attendues sur la lutte contre le communautarisme à 4 semaines des municipales. Le président doit dévoiler une partie de son plan s'agissant notamment de la question du financement des lieux de culte. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Georges Malbruno, grand reporter, co-auteur de Qatar Papers sur le financement douteux de certaines mosquées françaises. Et puis à 12h55, Raphaël, ce sera la grande table des idées.
Et bien justement, puisque vous parliez, Thomas Cluzel, du passage du président de la République à Mulhouse, notre invité sera le sociologue, anthropologue et démographe François Héran, tout juste nommé président du Conseil d'orientation du Musée national de l'histoire de l'immigration.
Merci et à tout à l'heure. Parce que la banque britannique HSBC est aujourd'hui la plus grande banque d'Europe par les actifs. Nécessairement, ces projets de réorganisation apparaissent pour le moins radicaux. Après avoir essuyé l'an dernier une chute de 53% de son bénéfice net, le géant bancaire a annoncé ce matin donc qu'il entendait supprimer quelque 35 000 emplois dans le monde d'ici 3 ans. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors cette réorganisation ne se limite pas à ses coupes. Près de 15% tout de même de ses effectifs. On y trouve également des cessions brutes d'actifs à hauteur de 100 milliards de dollars, mais aussi une réduction de sa banque d'investissement ou bien encore une refonte de ses activités en Europe et aux États-Unis. Pourquoi un tel plan massif, Anne-Laure ?
Eh bien, pour justifier ses coupes dans les effectifs, le géant bancaire invoque des performances qui ne sont pas acceptables dans certains pans de son activité. HSBC, qui est présent dans 50 pays, enregistre notamment des difficultés sur les marchés américains et européens, sur fond de guerre commerciale sino-américaine, de Brexit, mais aussi d'un environnement de taux très bas, voire négatif. Ces deux zones, Europe et États-Unis, devraient d'ailleurs être les plus impactés par les suppressions de postes. Et sur le marché qui est sa principale source de profit, l'Asie, il doit désormais faire face aux conséquences du coronavirus qui risque de peser sur ses résultats à l'avenir, explique-t-il. Alors ce plan de réorganisation a surpris par son ampleur. Récemment, le Financial Times avait évoqué le chiffre de 10 000 suppressions de postes, alors que le groupe avait déjà annoncé cet été une réduction de 2% de ses effectifs, ce qui représentait 4 700 emplois.
Et puis évidemment, l'autre question donc que tout le monde se pose, Anne-Laure, que sait-on aujourd'hui des possibles réductions d'effectifs en France ?
Alors pas de détails pour l'instant, mais ces derniers mois, le marché bruissait de rumeurs sur une prochaine vente totale ou partielle de l'activité banque de détail d'HSBC en France. 270 agences et 800 000 clients plutôt haut de gamme. La Banque Postale et la Société Générale auraient d'ailleurs déjà déposé des offres selon le journal Les Échos ce matin. Interrogé sur ce point précis, le directeur général par intérim, Noël Quinn, a botté en touche, expliquant que le groupe était en pleine revue stratégique, autrement dit en train de passer en revue toutes ses activités. HSBC emploie plus de 8000 personnes en France. Les syndicats sont convoqués jeudi après-midi par la direction générale et ils espèrent en savoir alors un peu plus.
Merci Anne-Laure Jumet. Certains y verront peut-être une tentative de greenwashing, d'autres une réelle volonté d'agir enfin pour protéger la planète, quoi qu'il en soit. Et alors que son entreprise Amazon est accusée, y compris d'ailleurs par ses salariés, de contribuer au changement climatique, le milliardaire le plus riche du monde, Jeff Bezos, a promis hier de consacrer 10 milliards de dollars de sa fortune personnelle à l'environnement et à la lutte contre les conséquences du réchauffement. Le lancement de ce fonds représente à ce jour le plus important investissement philanthropique de l'homme d'affaires dont la fortune totale est estimée à 130 milliards de dollars. Le jury du tribunal pénal de Manhattan doit se réunir aujourd'hui pour entamer ses délibérations après 3 semaines et demie de procès du producteur Harvey Weinstein, dont le sort paraît incertain. Celui qui fut jadis le producteur de cinéma indépendant le plus puissant au monde est-il coupable de viol et d'agression sexuelle avec comportement prédateur comme circonstance aggravante? Voilà donc la question à laquelle vont devoir répondre à l'unanimité les 12 jurés. Évidemment, un verdict de culpabilité constituera un tournant majeur pour le mouvement MeToo. À l'inverse, si le jury exonérait l'accusé, il fragiliserait de facto le prolongement du mouvement devant les tribunaux. En revanche, et même en cas d'acquittement, précisons qu'Harvey Weinstein aurait encore à répondre d'autres inculpations pour 2 agressions sexuelles à Los Angeles annoncées début janvier. Pour la première fois depuis le début de l'année, le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus en Chine continentale est descendu sous le seuil des 2000. Pour la plupart des experts, il est évidemment encore trop tôt pour en conclure que l'épidémie est aujourd'hui contenue. Hier encore, l'Organisation mondiale de la santé prévenait elle-même que tous les scénarios étaient encore sur la table pour l'évolution de l'épidémie. En revanche, à Pékin, les autorités n'ont pas tardé, elles, à réagir pour se féliciter de ce que les mesures engagées pour limiter la propagation du virus commençaient à porter leurs fruits. Quoi qu'il en soit, dans cette véritable bataille de communication, certains diront même de propagande, difficile de critiquer aujourd'hui la gestion de l'épidémie par Pékin. Certains l'ont appris à leurs dépens. On se souvient notamment du sort réservé en décembre dernier aux premiers lanceurs d'alerte, dont la mort de l'un d'entre eux, d'ailleurs, il y a quelques jours, avait provoqué la fureur et le dégoût de très nombreux Chinois. Et puis, dernier exemple en date ce matin, un dissident chinois qui avait osé critiquer la gestion de l'épidémie par le président Xi Jinping et appelé à sa démission a été arrêté, soulevant à nouveau une vive émotion parmi les organisations internationales des droits de l'homme. C'est une correspondance à Pékin signée Dominique André.
Xu Zhirong est l'une des figures de la contestation chinoise. Il a été arrêté samedi, mais on vient seulement de l'apprendre. L'avocat dénonçait depuis plusieurs semaines la situation dans les hôpitaux débordés, la pagaille avec beaucoup de personnes contaminées, avait-il écrit. Le 4 février, Xu Zhirong a appelé à la démission de Xi Jinping. Il était en fuite depuis décembre, explique l'un de ses amis.
Le 15 février, aux environs de 18h, il a été arrêté avec un autre avocat, Yang Bin, et deux membres de sa famille. En fait, personne ne savait qu'il se cachait à Ganzhou. On était sans nouvelles de Xu Zhirong, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il avait disparu. On sait qu'ils ont été arrêtés. Il a critiqué sur Internet la gestion de l'épidémie et la politique du gouvernement. J'ai entendu dire qu'il avait été amené à Pékin par la police.
L'organisation Amnesty International estime que l'avocat est dans le collimateur de l'État chinois depuis qu'il a participé à une réunion de militants à Xiamen en décembre dernier. Xu Zhirong risque gros, s'inquiète un intellectuel chinois en exil. Récemment, un autre avocat et un lanceur d'alerte ont disparu après avoir diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos sur la situation à Wuhan.
C'est une affaire tentaculaire, vieille de 15 ans. En 2006, Yukos, premier producteur d'or noir de la Russie, était placé en liquidation judiciaire à l'issue d'un procès retentissant, largement considéré comme inspiré par le pouvoir pour contrecarrer les ambitions politiques de l'oligarque Mikhail Khodorkovsky, ennemi déclaré du Kremlin. Accusé par les ex-actionnaires d'avoir orchestré le démantèlement de Yukos pour des raisons politiques, la Russie avait alors été condamnée, c'était en 2014, par la Cour permanente d'arbitrage à leur verser une indemnisation de 50 milliards de dollars. Condamnation confirmée en appel ce matin par un tribunal néerlandais. En revanche, et comme attendu, la Russie a annoncé qu'elle allait de nouveau faire appel de sa condamnation devant cette fois-ci la Cour suprême des Pays-Bas. Au Japon, la nouvelle direction du constructeur d'automobile Nissan a été approuvée ce matin lors d'une assemblée générale extraordinaire, deux mois après la prise de fonction de Makoto Uchida à la direction du groupe, chahutée à plusieurs reprises par les actionnaires, dont certains ont demandé une diminution des salaires des dirigeants ou bien encore l'octroi d'une prime pour ramener Carlos Ghosn au Japon après sa fuite au Liban. Eh bien, le nouveau dirigeant a déclaré qu'il était prêt à être démis de ses fonctions s'il ne parvenait pas à améliorer la rentabilité de Nissan. Il faut dire que le constructeur, pourtant parmi les fleurons du secteur, est encore aujourd'hui aux abois, plus d'un an après l'éviction de Carlos Ghosn. Pas plus tard que la semaine dernière, le groupe a abaissé de 43% sa prévision de résultats opérationnels annuels. Le marché automobile européen a lui chuté de 7,5% au mois de janvier, pénalisé notamment par des changements de réglementation, tandis que les constructeurs français ont eux particulièrement souffert. D'après les chiffres publiés ce matin, le groupe Renault a fait deux fois moins bien que la moyenne avec des livraisons en recul de 16,3%, tout comme son rival français PSA, en baisse de 12,9%. Quelques jours seulement après son retrait de l'aviation commerciale, Bombardier a donc choisi d'accélérer sa stratégie de désendettement en vendant ses activités de construction ferroviaire à Alstom. Une manière pour le groupe canadien de se recentrer sur le juteux marché des avions d'affaires. Et l'occasion pour l'entreprise française, cette fois-ci, d'étendre son empreinte géographique, notamment en Europe du Nord, mais aussi de compléter sa gamme de produits face à la concurrence chinoise dans un secteur dopé aujourd'hui par la demande pour les transports verts. Alors pour cela, Alstom devra encore débourser jusqu'à 6 milliards d'euros, de sorte que si cette union aboutit, elle donnera naissance à un nouveau numéro 2 mondial. Si elle aboutit, car évidemment, Ce protocole d'accord va tester la volonté des autorités européennes de concurrence d'accepter que des compagnies se regroupent pour faire face à la concurrence de la Chine. Rappelons qu'Alstom avait déjà échoué à se marier avec l'Allemand Siemens en février de l'année dernière. À l'époque, la Commission européenne s'était opposée à cette acquisition, craignant une position trop dominante en Europe dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande vitesse. Toujours est-il que le groupe français peut d'ores et déjà compter sur le soutien du gouvernement, puisque dès hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est réjoui de l'annonce d'un tel projet. Et puis même côté canadien, cette fois-ci, la vente donc des activités ferroviaires de Bombardier apparaît là aussi, et assez paradoxalement d'ailleurs, comme plutôt une bonne nouvelle. Les précisions à Québec de Pascal Guéricola.
La vente de la division ferroviaire de Bombardier ne semble pas faire aussi mal aux Québécois que la fin de son implication dans les avions commerciaux. Il faut dire que cela fait des années que les citoyens assistent à la chute de cet ancien joyau de l'économie du Québec. Paradoxalement, la prise de contrôle par Alstom du service du transport terrestre a presque l'air d'une bonne nouvelle pour le ministre québécois de l'économie. D'autant plus que la Caisse de dépôt, qui gère les retraites des Québécois, devient le principal actionnaire de cette nouvelle entité. Et sans oublier qu'Alstom doit installer au Québec son nouveau siège d'opération pour l'Amérique. Le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, rêve déjà des wagons de train ou de métro conçus au Québec et à destination des États-Unis.
Je pense qu'Alstom voit en Bombardier Amérique du Nord une plateforme pour un marché qui va être en croissance extraordinaire. Alors moi, je pense que non seulement on partage des emplois, mais on va les bonifier avec les contrats futurs qu'on risque d'avoir.
Un des syndicats du Québec, la CSN, espère que l'arrivée d'Alstom va inciter les pouvoirs publics à opter pour l'électrification des transports publics et la mise en place de tramways dans plusieurs villes du Québec.
C'était en pleine crise des Gilets jaunes. En avril 2019, Emmanuel Macron avait affirmé son souhait de supprimer l'ENA, l'École nationale d'administration. Le président de la République avait alors estimé que pour répondre au manque de confiance dans les élites de la population, eh bien, il fallait réformer la haute fonction publique et en particulier donc l'établissement dédié à la formation de tous les aspirants au grand corps de l'État. Catherine Pétion, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour rendre au fond les hauts serviteurs plus représentatifs de la société, une mission avait été confiée au printemps dernier à l'avocat Frédéric Thiriet, lui-même énarque. Et la remise de ce rapport a donc eu lieu ce matin à Matignon. Quelles sont, Catherine, les principales pistes retenues par le Premier ministre ?
Une nouvelle école, un concours d'entrée remanié ou encore le classement de sortie supprimé. Des 40 propositions formulées, le Premier ministre a retenu 5 axes de travail, même si c'est à Olivier Dussopt, secrétaire d'État à la fonction publique, que reviendra la charge de faire avancer cette réforme voulue par Emmanuel Macron. L'ENA sera remplacée par, je cite, une école de management public avec une vocation élargie. C'est en ces termes qu'Édouard Philippe reprend la proposition de faire disparaître l'ENA sous sa forme actuelle, mais de conserver une formation spécifique à la haute fonction publique. Le rapport proposait qu'un tronc commun rassemble tous les futurs hauts fonctionnaires, magistrats, directeurs d'hôpitaux, administrateurs civils et territoriaux, etc. Alors que le rapport rappelle aussi la surreprésentation à l'ENA des hommes issus des classes supérieures et d'établissements parisiens, le Premier ministre veut renforcer la diversification sociale et géographique des recrutements, notamment via des classes égalité des chances et des quotas de boursiers dans les classes préparatoires. Le rapport préconisait, lui, que 10 à 15 des places au concours leur soient réservées. Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal et Olivier Dussopt doivent présenter un plan d'ici fin avril. Le Premier ministre souhaite aussi un concours, je cite, moins académique et avec un renforcement du potentiel de leadership comme critère de recrutement et une formation davantage sur le terrain. Et puis fini la titularisation et l'avancée automatique dans les grands corps de l'État comme le Conseil d'État ou l'Inspection des Finances. Il faudra avoir travaillé plusieurs années pour y accéder, comme le proposait le rapport. Cela revient à supprimer le classement de sortie de l'ENA qui permet aujourd'hui au premier d'accéder directement à ces grands corps de l'État. Les modifications législatives nécessaires seront faites par voie d'ordonnance d'ici l'été. Les nouvelles modalités du concours sont-elles prévues pour 2022 ?
Merci Catherine Pétillon. Le parquet de Paris a ouvert ce matin 2 informations judiciaires contre l'artiste russe Piotr Pavlensky. La première pour des violences commises avec armes. C'était le 31 décembre dernier. Et puis la seconde qui vise également sa compagne Alexandra de Tadeo pour la diffusion d'une vidéo intime de Benjamin Griveaux. Après des semaines de contestation dans la rue et 10 jours de dialogue de sourds en commission spéciale, l'examen du projet de réforme des retraites a débuté hier à l'Assemblée nationale dans une atmosphère déjà électrique, entre d'un côté le gouvernement vantant une ambition immense et puis de l'autre une opposition bien décidée à torpiller une réforme jugée illisible et injuste avec une nuée d'amendements. Comme un avant-goût des échanges à venir, Olivier Véran, tout juste nommé à la tête du ministère de la Santé en remplacement d'Agnès Buzyn, a d'ailleurs été invectivé à plusieurs reprises lors de son discours au Palais Bourbon et nul doute que la séance des questions au gouvernement cet après-midi devrait encore donner lieu à de nouvelles passes d'armes. Et puis parallèlement au travail de l'Assemblée, donc les partenaires sociaux ont eux démarré ce matin la fameuse conférence de financement chargée de trouver des solutions pour amener à l'équilibre le système de retraite d'ici à 2027. C'est un sujet que l'on qualifiera de hautement sensible, charriant tout à la fois les thèmes de la pauvreté, de la délinquance, mais aussi de la criminalité, sans oublier les amalgames, les peurs et autres fantasmes. Une sensibilité d'ailleurs révélée par des mois de débats sémantiques. Depuis ce matin, Emmanuel Macron est en effet en déplacement à Mulhouse pour y dévoiler son plan de lutte contre le communautarisme, ou plutôt contre le séparatisme islamiste, puisque c'est là finalement la dénomination retenue par l'Élysée. Alors, en pleine campagne électorale, cette visite durant laquelle le chef de l'État détaillera la stratégie du gouvernement contre la radicalisation et l'islam politique est en réalité la première étape d'une séquence qui devra s'étendre au-delà des élections municipales, manière pour le chef de l'État d'affirmer donc sa politique sur ce sujet. Emmanuel Macron devrait notamment s'exprimer sur le financement des lieux de culte, mais aussi plus largement sur la structuration de l'islam de France. Nous y reviendrons dans quelques instants avec notre invité, mais en attendant, le chef de l'État a donc débuté sa visite ce matin dans un commissariat de police pour faire le point de la situation avec les forces de l'ordre, et pas n'importe où, à Bourzwiller, un quartier sensible de la ville du Haut-Rhin. Les précisions sur place de Rosalie Lafarge.
Bourzwiller, c'est un quartier du nord de Mulhouse. Il fait partie des 47 quartiers de reconquête républicaine créés depuis le début du quinquennat. Des quartiers dans lesquels l'État tente de se réancrer, de rediffuser les valeurs de la République et surtout de mettre un terme au discours de haine et aux mouvances qui essaient d'organiser, comme dit l'Élysée, des contre-sociétés. Ces tentatives d'organisation de contre-sociétés, elles passent par l'éducation, le sport, la culture, l'économie souterraine. Et c'est tout cela que veut combattre Emmanuel Macron au niveau national en s'appuyant sur le local. Le président a, nous dit-on, dans son entourage, bien compris que cette reconquête de la République doit s'appuyer sur les territoires et surtout sur les acteurs qui agissent dans ces territoires. Après les policiers du commissariat de Bourzwiller, c'est d'ailleurs avec les représentants associatifs du terrain que le chef de l'État a rendez-vous. Et pour montrer que l'approche est globale, Emmanuel Macron n'est pas venu seul. Il est accompagné des ministres de l'Intérieur, des Sports, de la Ville et du Logement. Le chef de l'État, entouré pour ses premières annonces en matière de lutte contre le communautarisme et le séparatisme islamiste, le vocabulaire a évolué, on peut le noter. Ces premières annonces, elles sont attendues en tout cas en fin d'après-midi aux alentours de 17h. Mais l'entourage du président insiste, ce n'est qu'une première phase. D'autres déplacements et d'autres annonces suivront. Façon de déminer en amont les critiques qui, dès ce soir, estimeraient que le plan d'Emmanuel Macron est incomplet.
Voilà, et pour continuer donc d'évoquer ce sujet, invité de la rédaction aujourd'hui, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro et auteur notamment avec notre confrère Christian Chesneau de Qatar Papers sur le financement douteux de certaines mosquées françaises. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors en se rendant à Mulhouse et en particulier, on vient de l'entendre, dans ce quartier donc de Bourzwiller, le président de la République entend illustrer sa prise en main d'un sujet sur lequel il peine encore manifestement à être identifié par l'opinion. Il devrait continuer d'ailleurs à enfoncer le clou la semaine prochaine à l'occasion d'un nouveau déplacement consacré toujours à ces questions, qu'il s'agisse donc du financement étranger des lieux de culte, de la formation des imams, mais aussi du contrôle du développement des écoles dites hors contrat. Alors s'agissant notamment du financement étranger des lieux de culte, on sait qu'une immense mosquée est en cours de construction à Mulhouse, grâce en large partie à des financements d'une ONG du Qatar, ONG que vous connaissez bien, Georges Malbruno, puisque vous avez, je le disais, enquêté sur elle, Qatar Charity, c'est son nom, finance en réalité aujourd'hui des centaines de projets dans toute l'Europe et même au-delà.
Oui, 140 projets financés par Qatar Charity dans une dizaine de pays en Europe, principalement en Italie, une cinquantaine de projets, mais aussi en France, 22 projets, pour un montant total d'environ une centaine de millions d'euros. Qatar Charity, c'est une ONG qui, au Qatar, est théoriquement indépendante, mais il n'y a pas d'indépendance dans un petit pays comme le Qatar, et qui draine les fonds de ce qu'on appelle en islam la zakat, c'est-à-dire c'est l'aumône, tout qatarien et doit contribuer justement à cette zakat. Et ensuite, ces fonds eh bien servent à financer des projets, mais pas uniquement en Europe, mais aussi en Afrique, etc. Alors, le problème, c'est que, pour revenir au sujet là qui nous concerne, c'est que, comme vous le savez, qui finance en général influence. Et la vision qui est portée par Qatar Charity et plus largement par le Qatar, c'est celle d'un islam, je dirais, conservateur, d'un islam politique, assez proche de la mouvance des frères musulmans, qui est d'ailleurs cette mouvance qui gère la mosquée An-Nour de Mulhouse, qu'Emmanuel Macron ne verra pas, ou en tout cas il pourrait l'apercevoir, parce qu'elle est une immense mosquée cathédrale, qui est une mosquée qu'on appelle centre de vie. Ça revient à ce que disait votre correspondante sur place, cet aspect de la prise en compte d'un islam global, c'est-à-dire dans cette mosquée, ce qui nous a frappé quand on l'a visité, quand on a pour le bouquin et pour le documentaire, c'est que vous avez une salle de prière gigantesque, 4000 mètres carrés au sol, c'est l'une des plus grandes de France. Vous avez des salles de prière pour hommes et femmes, c'est classique. Vous avez un groupe scolaire, vous avez un centre commercial, vous avez une morgue, vous avez une salle de coiffure. Donc, c'est la prise en charge de l'individu musulman, de la naissance jusqu'à la mort, dans le cadre de cet islam global qui est cher aux frères musulmans.
Et donc, est-ce qu'il faut en déduire, Georges Malbruno, que l'objectif est de communautariser finalement les musulmans ?
Non, je pense qu'il faut, effectivement, le rejet du terme communautarisme est assez heureux parce que il faut pas stigmatiser. Tous les gens qui fréquentent cette mosquée à Nour sont, l'immense majorité ne sont pas frères musulmans, ne sont pas, simplement, il y a, à la direction de cette association, comme à la direction de l'ancienne UOIF, des gens qui militent en faveur d'un islam politique qui va favoriser ce séparatisme, c'est-à-dire cette émergence de micro contre société. Vous irez vous faire coiffer à la mosquée à Nour, vous irez vous faire soigner à la mosquée à Nour, vous irez au sauna à la mosquée à Nour. Donc voilà, c'est ça qui, contre quoi je pense qu'il faut lutter, contre quoi Emmanuel Macron a finalement pris conscience du danger, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que jusqu'à maintenant, tout ça c'était légal. Ces financements par Qatar Charity étaient légaux. Alors maintenant, les banques, sous l'influence de Tracfin et des autorités françaises, resserrent les vices, mais on n'est pas dans du financement de terrorisme, c'est du financement d'une idéologie qui conduit à ce qu'on appelle maintenant le séparatisme islamiste, et c'est là le principal danger, je crois.
Est-ce que dans cette stratégie de réislamisation des musulmans en France et même en Europe, le Qatar bénéficie aujourd'hui de soutien, et en particulier de la part d'organes de pouvoir politique peut-être ?
Alors, le Qatar est un pays allié de la France depuis longtemps. Nous avons un accord de défense avec le Qatar. Nous avons beaucoup de relations commerciales avec ce pays-là. Et à travers les investissements qu'on connaît, le PSG dans l'industrie Total et d'autres, eh bien le Qatar, et y compris maintenant, c'était ce qu'on révélait dans notre dernier bouquin Qatar Papers, sur la sphère religieuse, eh bien le Qatar achète de l'influence et ça lui permet de peser lorsque, eh bien, il y a une crise, comme il affronte depuis 2017 que ses voisins saoudiens et émiriens lui imposent un blocus. Le Qatar, à travers ses investissements importants à l'étranger, souvent assez bien pensés, eh bien, a un levier de manière à pouvoir justement lui éviter des pressions de la part de tel ou tel pays, même si on a vu qu'Emmanuel Macron, sur ce plan-là, était plus, était plus dur que ses prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui d'ailleurs entretient les meilleures relations avec le Qatar, voire même François Hollande, qui était toujours dans cette optique de diplomatie économique, donc être assez bien avec ces monarchies du Golfe pour qu'ils nous achètent ou qu'on signe avec elles beaucoup de contrats.
Georges Malbruno, dès lors que la loi française, en l'occurrence celle de 1905, interdit à l'État de subventionner les associations cultuelles, comment s'étonner que les projets de mosquées soient principalement financés, en somme, par des fidèles, par des dons d'associations, et parfois, quand ces fonds ne sont pas suffisants, évidemment, par des donateurs étrangers? Est-ce que ça n'est pas absolument inévitable?
Exactement, c'est le vrai problème. Lorsqu'on est allé voir Nasser Al-Qaadi à Mulhouse, il nous a dit, nous, si on regardait, c'est vrai, il prie dans des lieux qui sont indécents. Donc il faut construire des mosquées, et il nous a dit, nous, si en France on ne peut pas bénéficier de l'argent public en vertu de la loi 1905, eh bien on va tirer les sonnettes au Qatar et ailleurs. Donc effectivement, il faut à la fois clarifier, mettre un terme à cette opacité dans le financement de l'islam de France par l'étranger, mais il faut aussi donner les moyens à la communauté musulmane de pouvoir financer des vrais lieux de culte, de pouvoir exercer leur religion comme tout un chacun. Donc là, effectivement, il y a une équation à résoudre, et jusqu'à maintenant, effectivement, les pouvoirs politiques avaient évité et botté en touche. Et donc, il y a effectivement, parce que les associations, certaines, jouent, pratiquent le mélange des genres entre le cultuel, donc le culte, 1905, on ne peut pas avoir d'argent public, donc à côté, on construit, ou dans l'enceinte même de ces mosquées, centres de vie dont je vous parlais, on construit un centre commercial, on construit des écoles, et là, Voilà, on est dans le culturel 1901, et donc là on peut bénéficier d'argent, et donc voilà, donc c'est cette opacité que le gouvernement essaie de combattre, mais c'est très compliqué parce qu'encore une fois effectivement construire des mosquées ça coûte cher, et donc il faut trouver de l'argent pour les musulmans de France pour qu'ils puissent prier dans des conditions décentes.
Merci Georges Malbruno, je le rappelle, grand reporter au Figaro, donc auteur avec notre confrère Christian Chesneau de Qatar Papers, d'avoir répondu à notre invitation. On termine avec un mot de météo pour cet après-midi. Partout, les éclaircies composeront avec des passages nuageux, parfois porteurs d'averses. Le pourtour méditerranéen bénéficiera d'un soleil généreux. Enfin, attention à l'arrivée en soirée d'une nouvelle dégradation assez marquée par le nord du pays. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.